back in the days when I was a teenager.
Welcome to Team Duncast.
Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home!
Nous sommes des athlètes, les montées sur la tête de notre pivot de 2018 pour lui toquer dessus!
It's over! It's over, ladies and gentlemen!
Back in the days when I was a teenager.
Nous sommes au début des années 90. La NBA commence à s'étendre au niveau de sa popularité sur le reste du monde. Et David Stern, qui est à la tête, pense déjà automatiquement à établir de nouvelles franchises, de nouveaux pavillons NBA sur l'Europe, voire ailleurs dans le monde. Il pense à Londres, Berlin, Rome, des trucs comme ça. Mais la NBA va tout simplement s'étendre sur son pays voisin du Grand Nord par rapport au Canada. Et on pense automatiquement à différentes franchises qui s'y positionnent. On connaît l'étendue du marché canadien. On sait que, économiquement parlant, ils peuvent tenir la route. Et surtout, il y a une croissance démographique sans précédent. Donc, tous les voyants sont ouverts pour l'NBA de se dire, avant d'aller en Europe, on a juste un mec à côté qui peut convenir à nos besoins. Et la NBA va concrètement se concentrer sur une ville qui est à une heure de la frontière, appelée Toronto, chef de la région de l'Ontario. Bon, les gars, on va faire un podcast tout simplement sur le développement de la NBA au Canada. Déjà, pour commencer, première question, messieurs, pour vous, les Raptors, quelle est l'image que vous avez des Raptors? Je ne parle pas juste de maintenant, on est en 2023, les gars. Vous, de tout ce que vous avez vu depuis la NBA, pour vous, les Raptors représentent quoi? Samuel.
la bandaison au départ, déjà. Faut le dire, quand t'es petit, que t'as, je sais pas, entre 6 ans, j'aurais dit entre 6 ans et 12-13 ans. Donc moi, à l'époque, quand la franchise a décrété 3 ans, on va dire que c'est plus 6-7 ans après que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au basket, c'était un peu la franchise de bandeur extrême. T'avais le maillot avec le dinosaure. Quand t'es petit, les dinosaures, t'as à fond, tu vois. À l'époque, t'avais Jurassic Park...
Voilà.
Films, comme ça, on avait tous des figurines. Je pense qu'on a tous eu un dinosaure en figurine, tu vois. Donc, ouais, t'as eu ce fameux maillot avec le gros T-Rex dessus. Donc, t'avais ça. T'avais aussi le nom de l'équipe, les Raptors, tu vois. C'était.
De ouf.
Ça faisait. Tu vois, c'est... Maintenant, je vais te lancer un pic à Rafik. Tu vois, c'est pas les Bucks. Tu vois, c'est pas un cerf.
Oh ah non, les...
Quand t'es petit, tu t'identifies plus aux Raptors qu'aux petits cerfs, tu vois.
Ouais, au chevreuil, là.
C'est ça.
Un cerf, ça gère la forêt, hein.
Ouais, mais ça se faisait, il se faisait haggal dans Bambi aussi.
Ah, tu parles d'une biche, wesh.
Ouais, c'est vrai, mais devient un cerf à la fin. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment ça. Puis t'avais Vince Carter à l'époque qui pète tout avec le Sydney 2000. Donc c'était vraiment le concours de dunk aussi. Donc ouais, c'était vraiment l'équipe du show. Franchement, quand t'es petit, c'était le show. Bon, après, ça n'a pas duré longtemps, mais au début, c'était le show, quoi.
C'était le show pour toi, Rafik?
Non, moi, c'était... moi, déjà, c'est plus... Mes premiers souvenirs Toronto, c'est plus le Toronto, on va dire, plus sobre. Chris Bosh, quand c'était Chris Bosh qui était le numéro 1 de l'équipe. C'était pour moi un peu une équipe à part. Ça me faisait bizarre de voir une équipe au Canada. Vraiment, quand je suis... Pour moi, la NBA, c'était les États-Unis. Et ouais, Toronto, Canada, oh, c'est bizarre. Et par rapport à ce que tu disais pendant ton introduction,
l'intro, ouais.
Bah c'est vraiment logique d'avoir commencé par le Canada. Le Canada était vraiment dans la position pour pouvoir s'immiscer dans le marché. Tu avais déjà une immigration qui était de plus en plus forte depuis la fin des années 70. Tu avais une loi sur l'immigration qui pouvait permettre à n'importe quel aux étrangers de pouvoir être résident permanent au Canada. Donc on a eu pas mal de personnes qui viennent de Barbade, enfin tu vois des Antilles,
West Indies,
de Chine, etc., West Indies, etc.
Bien sûr.
Et voilà, aujourd'hui tu as plein de joueurs. C'est pour ça qu'on voit des joueurs comme Wiggins, etc. On se dit on va pas se mentir, on va croire qu'ils sont on croit tous qu'ils sont américains au début. Et là, oui, non, Canada. Et Canada, d'origine Barbade, etc. T'as ce contexte-là. Et t'as aussi le contexte, la proximité. Proximité, c'est juste à côté. Si tu veux faire un événement, si tu veux faire une action pour promouvoir la NBA, bah c'est facile. Mmh. C'est facile. Tu peux envoyer des joueurs. Quand tu as des joueurs qui viennent dans ton pays, bah c'est plus facile de créer de l'envie dans ce pays, de créer de l'envie de rejoindre la NBA, de rentrer dans le marché. Donc ouais, super logique de la part de Stern.
Ça va, tu voulais rajouter un point ?
Non, je disais qu'il y avait eu un peu ce phénomène-là, on l'a vu à la Coupe du Monde de foot aussi avec les Canadiens. Il y a c'est les joueurs qui ont été naturalisés, ces jeunes aussi issus de l'immigration d'il y a peut-être 15-20 ans là-bas, qui aujourd'hui sont performants, et on le voit avec le basket, ça va être de mieux en mieux, je pense aussi. Moi, petit, je me rappelle, c'était la Coupe des Amériques à l'époque, il y avait Steve Nash et Barrett, quoi.
Ouais, exactement.
Barrett senior, bien évidemment. Ouais. Et maintenant, voilà, tu as quand même aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu un potentiel sans fin dans ce pays-là, qui devient de plus en plus attractif pour les étrangers. On voit même nous, on a tous pensé à un pote qui est parti vivre au Canada.
Tous.
En plus de ça, il travaille bien, il faut le dire. Il travaille bien.
Il travaille bien, surtout au niveau basket. Alors, je vous donne un petit point historique quand même pour nos jeunes auditeurs et jeunes auditrices qui nous écoutent par rapport à la naissance des Toronto Raptors. Sachez que Toronto, c'est la ville la plus peuplée des États-Unis. Hein, c'est, on va dire, la ville majeure. Du Canada, excusez-moi. Vraiment, toujours les USA. Bon, là, c'est le Canada aujourd'hui. C'est le centre économique majeur de la ville.
Il me hante.
C'est surtout pas la communauté négro-africaine à propos de la situation familiale. ensuite, dernier point, il faut savoir que le basket a été créé par James Naismith, qui est originaire en plus de la région de Toronto, donc du Canada bien entendu. Donc la naissance du basket est au Canada. Sachez que le premier match NBA, qui était à l'époque la ABA, qui a commencé en 1946, opposait New York. Alors c'était pas les Knicks à l'époque, mais c'était une franchise de New York face au Toronto.
Ils étaient déjà losers ou pas?
Ils avaient perdu ce match contre les Huskies de Toronto. C'est pour ça que quand vous voyez les Raptors des fois jouer dans leur maillot rétro, leur jersey rétro, il y a un Huskies et tout comme maillot qu'ils ont et tout.
Qui correspond plus quand même au climat du pays que le Raptors.
On est d'accord. Je pense pas qu'il y a des millions d'années les Raptors étaient dans cette région du monde, tu vois. Mais bon, c'est pour vous dire à tel point que les mecs ils sont loin. Vas-y, Samet, tu voulais dire un truc?
J'allais dire merci. Échappée belle, naturelle géographique d'Amaz, cette réflexion. Mais en tout cas, le...
N'importe quoi. Continuez sur ces points. Vas-y, Samuel, vas-y.
Non, vas-y.
Ah, ok. Non, juste pour... Ouais. On va y arriver.
Vas-y.
Ok, vas-y. Je termine juste ce petit point historique, si tu permets. Donc, James Naismith, créateur du basket que nous voyons aujourd'hui, donc originaire du Canada. Comment s'est conçue la franchise autour d'hommes d'affaires assez importants, tels que M. Bitov, qui a placé 125 millions de dollars pour la création de la franchise, les Raptors de Toronto. Donc, David Stern, qui, et avec son groupe du comité d'expansion, estimait que c'était un petit peu délicat au niveau de la logistique, température. Les mecs, quand ils venaient avec 125 millions de dollars, vous imaginez bien que vous commencez à réfléchir. Nous sommes en 1993, donc 125 millions de dollars, c'était une sacrée somme à l'époque. Ok, oui. C'est au prorata de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Donc, automatiquement, David dit oui à la création des Raptors. Et sachez que la première rencontre a lieu, je crois, pour la saison 94-95. Et ce qui est intéressant, exact. C'est... Pourquoi le nom d'abord Raptors quand même? Il faut quand même le signaler. Il y a le film que Samuel a mentionné.
95-96.
Exactement. Après, il y avait une baston pour le nom adapté à cette franchise. Il y avait Bobcats déjà à l'époque, les Dragons, les Lions, des blazes, des surnoms qu'on voit aujourd'hui, vous voyez. Et les Raptors, on a choisi les Raptors à cause de ce fameux film Jurassic Park. Qui nous a tous impressionnés, comme m'a mentionné Samuel en début de podcast. Et c'est là où ça a mordu. Et c'est même passé à la télé à la date du 15 mai 94, un jour après l'anniversaire de mon père. Et les Raptors sont nés, et en effet, pour la saison, la draft 95-96. Et c'est là où justement les Raptors vont commencer à évoluer. Rafik, tu voulais dire un mot, je crois?
Déjà, tu as dit un jour après la naissance de qui?
De papa? Enfin, papa en bureau, quoi.
Ah, en 94?
Il est né le 14 mai, donc le 15 mai, t'as eu
une annonce. Tu veux dire le jour. Oui, le jour.
Okay, ouais, c'est ça, ouais. Excuse-moi.
Parce que je pensais que t'allais dire, je sais pas, ou tu voulais dire peut-être une autre personne.
Non, mon daron.
Ouais, bah, tu vois, t'as cette création de Toronto. Bon, le début est compliqué, hein, vraiment, on va pas se mentir. Hein, c'est compliqué, hein, 21 victoires première saison, 30 victoires la deuxième. 16 et puis ensuite 23, il faut attendre la cinquième saison pour voir les Raptors aller en playoff et ça coïncide avec l'arrivée d'un certain personnage, d'un personnage qui va être très important pour Toronto, Vince Carter.
Exact.
C'est vraiment quelqu'un qui va permettre au basket d'évoluer à Toronto parce que le Canada, c'est vraiment un pays où on joue au hockey. Il y a plus de licenciés de hockey, il me semble, au Canada que de licenciés de basket en France.
Un sport où il y a une pause pendant le match pour que tu puisses faire la bagarre.
C'est incroyable. Et je crois que c'est... Non, c'est Samuel ou... Non, c'est Vladimir. Je crois qu'il n'a pas fait du hockey, Vladimir.
Moi, j'ai voulu en faire quand j'étais petit. Ma mère, elle est partie se renseigner à la patinoire de Colombe à l'époque. On lui a dit le prix. Elle m'a dit, tu vas rester au basket et tu vas fermer ta bouche.
Ouais, c'est la licence, elle est super chère, la licence, c'est trop cher.
Il faut acheter tout le matos, c'est tout.
Exactement, ouais, c'est archi chaud. T'as aussi les petits champions, ça matrixé v'là les gens à vouloir faire du hockey. Hein. Moi, j'ai regardé les petits champions, je voulais faire du hockey.
C'est ça, moi aussi, j'ai vu les petits champions, je voulais faire du hockey. Ma mère est partie regarder la licence, elle m'a dit bonne nuit. Reste au basket, c'est le moins cher.
Va jouer au basket, prends la balle à 10 euros. Exactement. Et ouais, c'est vraiment Vince Carter qui va permettre en plus de permettre à l'équipe de Toronto d'accéder pour la première fois au playoff, mais aussi de changer un peu les mentalités des gens. On va avoir de plus en plus de personnes jouer au basket. Il y a un environnement qui va être de plus en plus propice à la création de programmes pour développer les joueurs. Tu as des programmes comme Grassroots et d'autres qui vont être créés pour permettre aux jeunes Canadiens d'être formés au basket et de pouvoir intégrer la NBA. Et quand on regarde les joueurs canadiens qui sont développés dans les récents programmes, en vrai, dès qu'ils arrivent en NCAA, en NBA, on dirait des joueurs, c'est comme j'ai dit au début, on croit que c'est des Américains au début parce que en fait ils jouent déjà comme des Américains, ils ressemblent à des Américains. Tu vois, c'est pas comme un joueur qui vient d'Europe ou d'Asie. Ça va être un style de jeu différent au début. Tu sens que c'est différent dans le style de jeu. Tu sens que c'est pas trop. Alors que Canada, vraiment les Canadiens, ils jouent vraiment comme des joueurs américains. C'est vraiment le même style de jeu.
Bien sûr.
Après, il faut aussi dire, avant cette draft de Vince Carter, il y a eu quand même trois joueurs qui ont été draftés. C'est Damon Stoudemire, Marcus Camby et Tracy McGrady.
Exact, donc, important.
Il y avait quand même un projet qui était mis en place à l'époque, je crois que c'est Isaiah Thomas,
exactement.
Ouais. Donc il y avait quand même un projet qui était mis en place avec les jeunes. Au final, on a quand même vu Marcus Camby faire une bonne carrière et T-Mac devenir... Oui. Un très bon joueur aussi. C'est quand même dommage de ne pas avoir vu ces quatre gars, plus Vince Carter, pouvoir porter cette franchise au sommet plus haut. Ça a quand même été mal géré. Après, je suis d'accord avec Rafik.
Même Stoudemire.
Oui, même Stoudemire, bien sûr.
Mais qui a été rookie de l'année. Quel rookie. Une saison à 19,9 points de moyenne. C'est exceptionnel dans une équipe pareille.
19,9, propre.
Ouais, propre, franchement. C'est sa meilleure saison en carrière, en plus. Hein.
Ouais, mais c'est vrai que ça fait la différence, en plus, par rapport à l'autre franchise du Canada qui a été créé à la même période qui était Vancouver, donc les Grizzlies. Pour les plus jeunes qui pensent que les Grizzlies viennent de Memphis, non, ils étaient à Vancouver avant. Et d'ailleurs, il y a plus de Grizzlies, je pense, à Vancouver qu'à Memphis. Bon, ça c'est autre chose.
Il y a moyen.
Voilà. et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a fait que Vancouver n'a pas réussi à perdurer, contrairement à Toronto. C'est les joueurs qui ont été l'image de cette franchise. Là où on va dire que les Raptors ont eu des joueurs un peu bankable, que ce soit Damon Stoudemire, que ce soit T-Mac et surtout Vince Carter. De l'autre côté, il n'y a pas eu ces mecs qui donnaient envie aux Canadiens de s'intéresser au basket. Sharif Abdourahim, c'était un bon joueur de basket. On a fait un podcast top sur lui, mais c'était pas un gars qui te fait te lever de ton siège.
Même Sean Sibilops, hein.
Même Sean Sibilops. Après, il y a eu Mike Bibby. C'est Mike Bibby aussi.
McBeebe, c'est Vancouver de Grise. C'est Vancouver,
Bibi,
par contre.
Bibi, tu vois, et t'as Bibi, eu aussi... Grise, ouais. Ouais, et t'as eu aussi, comment il s'appelle, le gros, là, Reeves.
Ouais, Martin Reeves.
Ouais, Martin Reeves, ouais. Donc, il n'y a pas eu de gars, en fait, bankable à Vancouver. Donc, la franchise, elle était un peu dans l'anonymat. Personne n'a calculé.
On est d'accord, on est d'accord.
C'était vraiment, voilà, c'était franchement, si vous avez des souvenirs d'enfance de Vancouver, tu vois, c'est un miracle. Alors que les Raptors, il y avait ces mecs, tu vois, T-Mac, il était quand même spectaculaire, même si c'était un jeune, etc. Il y avait de l'ambition, il y avait quelque chose. Et puis, Vince Carter, il a tout fait péter. Vince Carter, c'est le facteur X.
Ben, en parlant de Vince Carter, juste avant ça, il faut quand même préciser que les Raptors, même au-delà de ça, Toronto, c'est une ville sportive. Il y a du hockey, il y a du baseball. Les propriétaires, à l'époque, M. Pitoff, justement, cherchait une plus grande salle à mettre en place. Il y a eu une petite bagarre de propriétaires sportives pour l'enceinte, justement, qui va accueillir, en effet, les Raptors de Toronto avec Maple Life Entertainment. Et donc, l'arrivée de Vince Carter marque le virage colossal parce que Vince Carter, il a appris qu'il était cousin avec Tracy McGrady à un certain degré, mais en tout cas, ils sont cousins. Et d'ailleurs, il s'avère que Tracy McGrady a poussé auprès du front office pour drafter Vince Carter. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant. Franchement, quand tu réfléchis, tu dis, mais pourquoi les Raptors n'ont pas misé sur les deux cocos au lieu d'un seul? Parce que ça aurait pu être vraiment, s'ils étaient sérieux, ça aurait pu être très, très, très intéressant. Mais Vince Carter, il va apporter une image nouvelle à la ville, une nouvelle attractivité, du show qui va venir pour revenir sur les propos de
des podcasts. La hype, ça a rajouté de la hype.
Mais complètement.
C'est un joueur spectaculaire.
Et surtout, ce qui est très fort avec Vince Carter, c'est qu'il a réussi pas uniquement qu'à attirer le public américain, canadien, même les États-Unis, pour bien marquer la différence, commencent à se dire « Ah, mais c'est pas ça, bah, à Toronto !» Et t'as même Shaquille O'Neal qui partait, on connaît Shaq, hein, dans son air urbain, capable de faire la fête, de s'amuser, vidéo et tout, bah, il s'affiche aussi avec Vince Carter, il a commencé même à éveiller de nouvelles aspirations par rapport à Toronto, par rapport à l'image même qu'ont les Américains du Grand Nord canadien où on ne boit que du sirop d'érable. Là, on se dit non, là, il se passe un truc. Cette image va casser tout ça.
D'ailleurs, il y a cette image un peu des Américains à l'époque, que les Canadiens, c'est un peu les campagnards des Américains, tu vois, c'est un peu
le gros beauf.
C'est le beauf, le Canada, c'est nul, quoi, pour eux. Mais Vince Carter, il va rajouter ce côté, en fait, bankable, ce côté hype, ce côté hype. Le Canada, c'est peut-être pas si mal que ça. Les gens vont commencer à se déplacer pour aller voir Toronto jouer au basket parce qu'il y a Vince Carter. Tu as aussi la ville qui se développe. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un marketing qui est mis en place autour de Vince Carter, que ça soit même avec les boîtes de nuit où il était invité.
Exactement, publicité
ou autre. Donc, il se passe vraiment quelque chose dans la ville. Parce qu'il faut le dire, au départ, le Canada, à l'époque, quand tu pensais Canada, tu pensais le grand froid. Tu pensais température négative, qu'est-ce que je vais foutre là-bas.
En hiver, il ne dépasse pas 5 degrés en hiver.
C'est catastrophique. Et il faut le dire qu'il y a eu un vrai basculement à ce niveau-là, et Vince Carter est clairement un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui cette ville est devenue bankable, même dans le monde du hip-hop, parce qu'il faut le dire aussi, à l'époque, un rappeur canadien, ça n'existe pas. Aujourd'hui, péter leurs genoux. Aujourd'hui, tu as Drake, tu as même en R&B, en pop, tout ce que tu veux, on a The Weeknd, tu as plein de mecs qui sortent. En fait, c'est devenu, il y a une vraie culture urbaine, on va dire pop culture sportive qui s'est développée dans cette ville dans les années 2000, en fait.
Exactement. Rafik, tu voulais dire un mot?
Non, totalement d'accord avec ça. Hein. Ça a beaucoup capitalisé sur Vince Carter. Ensuite, il y a eu Chris Bosh qui est arrivé derrière, mais c'est aussi surtout Vince Carter, parce que vraiment, t'as des mecs comme Tristan Thompson, Corey Joseph, vraiment quand il venait à la salle, bah, c'était Vince Carter qui voyait jouer. Hein. Ça te donnait. Comment ?
Ouais,
Olynyk dit dans le reportage alors sur Vince Carter sur Netflix que ça, à l'époque, t'osais pas dire que tu venais de Toronto, et grâce à Vince Carter, bah, t'étais fier de dire je viens de Toronto, genre. Qui dit ça dans le reportage, t'étais content parce que t'étais de la ville de Vince Carter.
Bon. Clairement, après Chris Bosh, on a eu DeRozan accompagné de joueurs comme, tu vois, des mecs comme, je sais pas si vous vous rappelez de Sonny Wims.
Oui, bien sûr.
Sonny Wims, Amir Johnson, des mecs comme ça qui ont. Ouais,
il aimait trop les films de boules, à ce qui est plus.
Avant ça, on a eu
Amir Johnson, un vrai
d'aller. On a eu le flop Barnaby avant. Avant ça, on a eu le flop Bagnani.
Oui, où les Raptors ont eu le premier tour de draft 2006. C'est en effet pas très bien passé pour notre joueur italien qui est d'une loque défensive absolue. Mais messieurs, il faut quand même signaler que ça s'est joué quand même un peu de choses, hein, parce que cette draft 98 où Vince Carter en effet rejoint les Raptors, c'était pas le joueur qui était drafté par les Raptors dans un premier temps. C'était Antoine Jamison, qui est d'un tout autre profil. Ils viennent tous les deux des Tar Heels de North Carolina, bien entendu la fac de Michael Jordan. Et il y a ce trade lors de ce tour de draft 1998 qui amène Vince Carter du côté des Raptors et Antoine Jamison du côté des Warriors. Avec ce modèle-là, on se voit que les choses peuvent se jouer à un minimal de choses comme celle-ci. Vince Carter change la ville. Moi, messieurs, j'aimerais quand même qu'on puisse rebondir sur les parties importantes par rapport aux Raptors, avec en effet ce podcast on l'a déjà traité, parce que je pense que les Raptors auraient pris un virage tout autre après cette fabuleuse série 2000-2001, en demi-finale de conférence Est, face aux Sixers de Philadelphie de Allen Iverson. On parle de deux joueurs qui sont dans la même génération. On commence à voir les Raptors au mois de mai. On sait qu'il y a une signification importante. Tu joues au mois de mai, c'est pas pareil que jouer au mois de février. Et avec la tension qu'on a vue...
Dédicace à Mbappé.
Au gamme... Oh, le tacle. C'est Yoann qui va pas être content. Hein. Donc, avec ça, on voit que les Raptors, ça joue à peu de choses. Qu'est-ce qui manque pour aller plus haut? C'est vrai qu'il faut gagner, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a un autre joueur? Comment les Raptors peuvent recruter? Vous pensez à des trucs comme ça, peut-être? Comment vous voyez ça?
Des couilles, il manque des couilles. sur le dernier match. Mais en vrai, c'est une série qui joue en 7 matchs qui fait mal. Mais ce qui va faire mal, surtout, c'est les saisons qui suivantes. C'est-à-dire que derrière, on a l'impression que Vince Carter, il commence à se lasser.
Oui.
On ne sait pas trop. Voilà, on a l'impression qu'il commence à se faire chier, peut-être au Canada aussi. On ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, il y a des problèmes. T'as aussi le côté son genou qui grince. Ouais. Il y a même des blessures où on dit qu'il ment. Voilà, donc il y a des choses pas terribles. Donc là, les saisons suivantes vont pas être bonnes. Puis il y a la draft de Chris Bosh qui va relancer un peu la machine. Mais bien sûr. Cette crise avec Vince Carter qui veut partir, cette désillusion contre les Sixers et le fait que derrière ils n'ont pas su rebondir, ça va faire très mal à la franchise qui va quand même mettre énormément d'années là, à se remettre correctement en place, parce qu'avec Chris Bosh, je crois que ça fait une fois les playoffs en premier tour là, contre Orlando en 2009, mais qu'avant ça, ça y arrive pas.
Et non, ça passe pas.
Il manquait, je pense, ce lieutenant à Vince Carter qu'il aurait pu avoir avec McGrady, mais il y avait un choix qui a été fait. Et ensuite à Chris Bosh. À Chris Bosh, on le sait, c'est une option 2, une option 3, mais c'est pas une option 1. Donc il était bien entouré, il avait une bonne équipe, mais ça pouvait pas faire de grandes choses. C'était une période là, un peu plus soft, comme a dit Rafik, où on savait qu'il y avait un bon joueur qui était Chris Bosh là-bas, mais personne ne s'intéressait vraiment aux Raptors à ce moment-là, quoi.
C'était l'intérêt pour le Raptors avait décru. Et je voulais aussi, on parle de Vince Carter, mais il y a aussi une autre personne pour moi qui est un signe que Toronto et que le Canada est considéré par des joueurs américains ou par des Américains, le fait que Lenny Bulikane soit le coach de cette franchise, hein, parce que avant Lenny Wilkins, c'est un des plus grands coachs d'NBA. Avant Lenny Wilkins, on a eu des coachs, des no-name, hein, c'est vraiment des no-name. Ça montrait peut-être le faible intérêt pour cette franchise. Et là, d'avoir Lenny Wilkins à Toronto, quand même, ça rajoute quelque chose. On parle d'un des coachs qui a gagné le plus de matchs en NBA. Ça montre que vraiment... Il y a de l'intérêt pour cette franchise à ce moment-là.
Ouais, Lenny Wilkins, exactement. Hein, c'est un joueur des Knicks qui va être un coach très important qui va être placé même dans l'histoire même des Raptors, hein, parce qu'il va durer quand même pas mal d'années. Ses conflits avec Vince Carter vont conduire en effet à son départ, comme tu l'as bien dit, Samuel. Et surtout, le retour de Vince Carter à la salle du côté du Air Canada Center, on y arrive enfin. Il y aura beaucoup hué. Moi, j'ai compris quand même que les Canadiens avaient été blessés par rapport au départ de Vince Carter, qui a quand même fait une sacrée fissure. Et c'est là où moi j'avais regardé ça plus jeune, les hués, mais les vrais hués. Hein, genre, comme t'es supporter, c'est comme quand t'étais un joueur de l'Olympique de Marseille, tu vas jouer au Parc des Princes, on entend « Ouh, mais des vrais !» Juste pour Vince Carter, il se fait vraiment huer au max. avec les embrouilles avec Maurice Peterson, Alvin Williams, ça s'était vraiment pas bien passé. Vous avez évoqué également le cas de Chris Bosh. Et puis bon, moi, messieurs, automatiquement, on devient maintenant plus aguerri concernant le regard de la NBA. On est obligé de parler de la période où les Raptors commencent en effet à se montrer de beaucoup plus de manière régulière en play-off, avec les deux grosses têtes que nous connaissons dans l'histoire, que sont Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Pourquoi ça n'a pas marché? Ils avaient les ingrédients nécessaires, ils avaient le public nécessaire, la masse nécessaire.
Les couilles, toujours.
toujours tu fatigues. Hein.
Toujours le même souci aux Raptors. Non, mais là, c'est vrai, là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Enfin, je suis désolé.
Mais surtout,
ils se faisaient laver par LeBron comme si c'était des petits 3 ans. On aurait dit la phrase de Evra quand il parle d'Arsenal.
Attendez. Si vous le permettez, je vais aller sur les séries un petit peu. On va les voir.
Rafik, il est chaud pour les terminer, je sens.
Vas-y, Rafik, c'est parti, c'est pour toi.
Oh, déjà, pour commencer, on a vu hier en play-in Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Nul. DeRozan a fait son match, mais où sont aujourd'hui les deux joueurs, font un match de play-in, c'est juste pour dire ça. C'est une période vraiment, c'est une période où j'ai commencé à un peu détester les Raptors, parce qu'en général, mais c'est vraiment personnel, hein. Oui, c'est personnel, parce qu'en général, Milwaukee, on avait vraiment du mal contre cette franchise. Il y a aussi cette série où on perd 4-2.
En menant 2-0.
Je parle pas de la série contre les où il y a Kawhi Leonard, je parle d'une série encore avant, c'est l'année où il y a Giannis qui commence à être chaud, t'as Chris Middleton, on a Greg Monroe à l'intérieur.
Ouais.
Et c'était vraiment, ils étaient archi favoris, hein, Toronto. Et on n'était pas loin de créer la surprise, mais t'as ce match où on est à 3-2 Raptors. Il y a ce match, ce Game 6 à Milwaukee. Il y a, je crois, moins 25 ou moins 26 pour Milwaukee. Milwaukee perd de 25-26 points à la fin de la première mi-temps. Et on repasse devant. Au début du quatrième carton, je crois qu'on fait une remontada de quasiment 27 ou 28 points. Et DeRozan nous termine à la fin de ce quatrième carton. À partir de là, j'ai détesté les Raptors. J'ai détesté les Raptors, vraiment. franchement, c'est maintenant depuis, j'ai du mal avec cette franchise. Donc voilà, je suis chaud pour casser du sucre sur Toronto.
Eh ben, en parlant de casser du sucre, il y a plusieurs confrontations face à LeBron James, où en effet, ça s'est très mal passé pour les Raptors, jusqu'au point à ce qu'on puisse donner ce surnom qui n'est pas trop à leur avantage, appelé le LeBronto. Le LeBronto.
Ah oui, non, mais il est salissé, on dirait, il les voyait arriver, il disait « Ah, je vais m'amuser aujourd'hui. »
Ah, je vais me régaler. Il y a la série en 2016 où il gagne 4 victoires à 2, alors que les Raptors, je crois qu'ils sont... Ah non, ils ne sont même pas tête de série, mais bon, peu importe. Il y a 4 victoires à 2 pour les Cavs de LeBron James. En 2017 également, je crois 4-0. Ils prennent 4-0 en 2017 aussi.
Ouais, 4-0 en 2017.
Non, il y a... Ouais, vas-y, continue, Samuel, oui.
Si, ils prennent 4-0 en 2017, 2018, les deux.
Ouais, c'est juste après, juste après la série...
Façon Pacers.
Si, ils font rien, ils les détruisent. Et en plus, c'est pas des défaites, genre, c'est pas des matchs serrés, hein, c'est des matchs 4-0, genre tu perds de 15 points, 18 points.
Non, il y a une vraie barrière psychologique. Il y a une vraie barrière psychologique du côté des Raptors. Moi, je considère quand même qu'un monsieur qu'il faut quand même retenir pour la fin de ce podcast et qu'il faut aussi mettre en lumière, c'est bien entendu Masai Ujiri, hein, qui est le premier general manager africain qui va s'imposer dans une franchise NBA, qui correspond quelque part aussi à l'image de la ville de Toronto, hein, où on connaît son côté cosmopolite. C'était quand même un point qui était important par rapport à l'image du Canada aujourd'hui dans ces grandes villes. Vous avez parlé en effet de l'afflux d'immigration qui a eu lieu sur la ville du Canada, le développement justement de ces différentes communautés et le fait que Masai Ujiri s'impose comme étant, je dirais même le point majeur, hein, de la partie dirigeante du front office canadien de Toronto, des Raptors de Toronto, il impose une image forte quand même, parce qu'en tradant DeMar DeRozan, à l'issue de cette défaite, je crois en plus, hein, de la saison 2018, 4-0 en effet face aux Cavs de LeBron James, on s'aperçoit qu'il y a il s'aperçoit qu'en effet, qu'il n'y a plus beaucoup d'espace. Le fait qu'il fasse un tel trade comme ça, en échange de Kawhi Leonard, c'est pour vous dire aussi à tel point que les Raptors ne sont plus du tout la même franchise qu'au départ et qu'elle a su quand même s'imposer dans l'image de la Ligue en se disant « Ah, Kawhi, il est capable de partir au Canada. » Bon, après, vous me direz, il n'est pas resté. OK ? Mais bon, sur une saison, il reste une saison, prendre le risque de prendre Kawhi Leonard pour gagner le titre, parce que c'est concrètement là où les Raptors visaient. Là, les gars, on est obligé de...
Il faut dire aussi qu'il y a eu des bons choix qui ont été faits, notamment Siakam à la draft.
Bien sûr.
Je pense qu'il fallait avoir le nez quand même pour aller chercher Siakam. Ouais. C'était pas
très belle progression.
C'était pas le choix genre que tu te dis que le gars va être fort comme ça.
Bien sûr, même Greg Van Vliet.
Van Vliet et les deux sont directement décisifs cette saison-là.
Ouais.
Ils étaient déjà là avant, mais ils étaient plus sur le banc cette saison-là. Je crois que Siakam est titulaire, notamment en finale. Et tu as aussi Marc Gasol qui vient, Danny Green, des gars avec de l'expérience. Donc il y a eu ce bon mélange entre vieux briscards, on va dire valeurs sûres, ces jeunes qui venaient d'arriver, plus Kawhi en chef
de meute.
Voilà, en chef de meute. Et puis t'avais quand même Lowry qui était là toujours aussi pour cette passation de pouvoir, on va dire, que c'était quand même, on va dire, l'ancien chef qui dit à l'autre, allez, fais-nous gagner. Et puis, t'avais, je trouve que c'était un bon mélange. Puis en plus, tu avais les circonstances qui étaient bonnes, avec ce fameux buzzer, les yeux fermés, les blessures Warriors. On dirait que tout s'enchaînait pour qu'enfin les Raptors puissent avoir cette récompense. Et puis, il y avait aussi, faut le dire, Drake. Drake joue sur la popularité de la franchise. Le fait qu'il vienne au match, faire son cirque au bord du terrain.
Il fait le Jack Nicholson du Canada.
Ah, c'est ça, mais même j'ai envie de dire, même New York, les Knicks ont Spike Lee, les Raptors ont Drake. Enfin, sachant qu'à l'époque, c'est un peu la star numéro un, même encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans le rap américain. Le meilleur artiste, le artiste le plus populaire, on va dire, du moment, soit canadien, supporter des Raptors, et on fait que cette saison-là soit une saison. Tout le monde regardait les Raptors, même si tout le monde s'en foutait, en fait.
Oui, dans l'absolu, oui.
Voilà, il y avait une hype.
Mais ils se sont créés une image de marque.
C'est ça.
C'est ça qui est important. Et en plus de Drake, t'as également le gros public Winorf. The North, exactement, ouais. Cette image-là, elle est quand même significative en se disant, on a notre identité. Les Raptors ont maintenant leur image identitaire reconnue dans la Ligue, mais même en dehors. C'est jusqu'au point à ce que des personnes qui soient du non-basket connaissent aujourd'hui le nom Toronto Raptors.
Mais pour moi, ils ont rattrapé un retard énorme. Hein, parce que moi, j'ai l'impression même que c'est une équipe qui a une meilleure identité maintenant que d'autres franchises en NBA. Les Raptors, pour moi, maintenant, aujourd'hui, en termes d'image dans le monde, genre sur les 30 franchises NBA, je les mets top 10, même voire plus haut. Hein, c'est au-dessus de beaucoup de franchises qui sont plus vieilles et qui sont aux États-Unis. Hein.
C'est intéressant ce que tu dis, surtout pour les villes des franchises qui sont dans le Midwest, où c'est un petit peu compliqué. Je dirais pas les Hornets, mais vas-y.
C'est vrai que c'est toujours sympa de voir Toronto en playoff. Tu sens il y a un vrai engouement au moment des playoffs. Tu vois, quand tu as des matchs de Toronto en playoff, bah tu as toujours, ces petits apartés où on montre le... Je ne sais pas comment ils appellent cet endroit-là, le Jurassic Park ou quelque chose comme ça, où tu as une zone où tu as tous les supporters qui regardent le match sur un grand écran et à chaque fois, pour Toronto, c'est à chaque fois, c'est archi plein.
Mais c'est pas le North Park, The North Park, un truc comme ça.
Quelque chose comme ça, un truc comme ça.
Ouais, un espace public là. Ouais,
ça, il faut le dire, aujourd'hui, c'est devenu une ville. C'est une ville déjà qui est classée comme la ville la mieux, une des villes où tu vis le mieux. C'est une ville qui aujourd'hui, je crois aussi, où avec énormément, la ville où il y a le plus d'immigrés, je sais plus, de gens qui viennent de l'étranger ou autre. Donc j'ai l'impression que déjà il y a tout le monde dans le monde entier, tout le monde dans le monde entier est lié un peu à cette ville. Comme je dis, nous, on a un pote qui est là-bas, on a tous un pote qui est là-bas, mais dans tous les pays du monde, j'ai l'impression que quelqu'un connaît à quelqu'un qui est là-bas.
De toutes les communautés de là-bas.
Et quand tu vas regarder une story, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vas forcément voir quelqu'un qui est au stade là-bas, tu vois, qui regarde les matchs là-bas, ou des gars qui... On a tous un lien, on a l'impression que cette ville sans y être.
On en connaît tous un ici.
Ouais, le chadérisme. Le chadérisme, supporter des Raptors, qui est parti là-bas un an, et voilà.
Mais, supporter, mais je sais pas.
Oui, supporter, mais en tout cas, il est sûr. On va dire que quand il suit le basket, il est pour eux.
Pour les réseaux.
Voilà. Voilà, pour les réseaux, pour le show.
C'est pour dire, ah ouais, moi je supporte une franchise.
Pour dire, non, c'est juste pour rappeler qu'il a travaillé là-bas. Ah, j'ai vécu à Toronto. Je supporte les Raptors.
Exactement. Tu as parlé de Charlotte vs Memphis. Il va dire, ah mais ils n'ont pas joué il y a 3 semaines contre Toronto. Bah Toronto, j'y ai habité là-bas.
Et après, quand il part en vacances, il te demande si tu peux lui prêter ton maillot des Lakers.
C'est vraiment de l'opportunisme, messieurs. Dernière question,
mais, si vous le permettez. Vas-y, pour finir, ouais, je disais, par exemple, tu vois, aujourd'hui, même si genre une équipe comme les Pelicans ou les Wolves ou je sais pas Indiana, même j'ai envie de dire maintenant, c'est des équipes qui tombent un peu dans l'anonymat, que personne calcule vraiment, tu vois, et c'est des équipes qui pourtant étaient là avant les Pelicans. Mais même les Hornets, soit, enfin, il y a énormément de franchises qui pour moi maintenant ont un retard énorme sur les Raptors. En fait, en termes de marketing, à part j'ai envie de te dire Bulls, Lakers, Knicks, allez peut-être les Clippers aussi, qui parce que c'est Los Angeles.
Oui, ils sont devant. Voilà, ils sont devant.
Tu peux rajouter les Brooklyn, mais derrière les autres franchises en termes de marketing, en termes d'image de marque, pour moi c'est derrière les Raptors. Hein. Je pense qu'il y a plus de gens qui suivent pas le basket qui connaissent les Raptors aujourd'hui. Que je sais pas, peut-être les Pistons, alors que les Pistons c'est une franchise historique, et plus que Cleveland ou plein de franchises, quoi. C'est...
Bien sûr, c'est même Cleveland. Ouais, même Cleveland est derrière, d'ailleurs, en parlant de ça.
Oh, mais la zone nord des États-Unis, hein, c'est compliqué. Hein.
C'est pas facile, en effet. Rafik, tu es bien passé pour le savoir en étant supporter des Bucks. Ouais. Messieurs, pour terminer, qu'est-ce qui manque aux Raptors pour commencer aussi à recruter des free agents de grands noms? Parce que, après le titre de 2019, on a compris que Kawhi Leonard n'avait pas resté. Et c'est tout à l'honneur des Raptors et de leur système front office de pouvoir faire développer leurs joueurs qu'ils recrutent. Parce qu'ils ne recrutent pas uniquement que de la draft. Il y a aussi des joueurs qui viennent de l'étranger, qu'ils arrivent à perfectionner avec un système justement de progression de joueurs.
Ça travaille très bien.
Ah, vraiment.
Bah, même là, Scotty Barnes, c'est un très bon joueur.
Ouais, non, mais il n'y a pas que Scotty Barnes. Il y a vraiment, en général, les draftés.
Voilà, Achiwa, tout ça, voilà, tu vois.
C'est... Il y a des mecs. Bon, Chihuahua, il est développé par Toronto, mais même tu vois, niveau draft, ça travaille bien. En général, ils font très peu de
mauvais choix.
Ouais. Mm-hmm.
On est complètement d'accord. Est-ce que vous pensez qu'un jour Toronto sera capable d'attirer des free agents majeurs comme ça? Faudrait gagner, à mon avis, hein, et pas comme ce qu'on a vu il y a 2 jours. Hein.
Bah, le souci, moi, je pense déjà, c'est qu'aujourd'hui, on est encore plus tourné vers une époque. De big teams, voilà, avec des regroupements de stars, etc. Et en général, quand on se regroupe dans des franchises de vendeurs, ouais. Voilà, faut le dire. Donc, ce souci-là, donc en fait, Toronto, c'est un peu comme les Bucks de Rafik, c'est des équipes qui sont obligées de se construire sur le travail et sur des bonnes drafts et sur des bons agents libres qui vont signer. Et puis espérer que tu as une star qui se crée dans tes drafts. Je vois pas aujourd'hui une star, je sais pas il y a qui. Je vois pas un gars là comme Doncic ou se dire tiens, je vais aller signer à Toronto. Ça reste quand même en dehors des États-Unis et quand t'es petit, il fait froid, et c'est pas le meilleur cadre de vie. Tu t'éternises pas à Toronto, j'ai envie de te dire. Tu vois, tu vas pas rester toute ta carrière à Toronto. Au bout d'un moment, je pense que les gars, ils ont envie de rêver des États-Unis. Et puis même toi, quand t'es petit, que t'es à l'étranger ou quoi, tu rêves d'aller vivre aux États-Unis en NBA ou quoi, tu veux pas aller au Canada. Tu sais, ça reste quand même en dehors des États-Unis. Il y a quand même cette barrière, faut le dire, la frontière. Mais en tout cas, ça a réussi à être une franchise qui a sa place aujourd'hui et qui existe, contrairement à Vancouver. Et ça fait réfléchir même la NBA pour ouvrir une autre franchise à Montréal. Donc c'est quand même déjà une étape.
C'était les Raptors de Toronto, vu par Tim Duncast, Rafik, Samuel et Damas au micro. À très bientôt.